CPO Radio.TV, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.TV. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine de Vulpilière, responsable de l'offre corporate du groupe EPSA. Bonjour, bonjour Antoine.
Bonjour.
Et Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.TV. Bonjour Gilles.
Bonjour Alain.
Alors on parle de littérature avec des surdoués qui passent pas le bac mais qui s'intéressent au digital aujourd'hui.
Et oui, nous recevons Viviane Lipskier, auteur du livre DNVB, Les surdoués du commerce digital.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce n'est pas banal votre cursus universitaire, hein. Ça passe du droit des affaires à MBA, à l'Institut français de la mode, en passant par l'histoire de l'art, la gouvernance des entreprises. Vous étiez éclectique à ce point ou vous cherchiez votre voie ?
Ah, c'était hyper cohérent en fait. À la base, je voulais être commissaire-priseur, donc j'ai fait l'école du Louvre et du droit en même temps. C'est pas tombé très bien puisque c'était au moment de la réforme en fait des maisons de vente, le moment où sont arrivés Sotheby's, Christie's, donc la fonction de commissaire-priseur était beaucoup moins prisée. Du coup, elle est bonne,
hein. Jolie, elle est bonne. En plus, elle est drôle, Diane.
Ouais. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Le monde des musées, ça m'intéressait pas plus que ça. Je suis pas très archiviste dans l'âme. Du coup, j'avais envie de transmettre. C'est ce que j'avais appris pendant mes études. Et ça a toujours été un fil conducteur d'ailleurs, la transmission. Et je suis rentrée, pas du tout par hasard, dans...
Cette passion de l'art vous entraîne à travailler pour France Télévisions.
Exactement, exactement. Je suis rentrée chez Arte pour m'occuper de l'administration du cinéma d'Arte, donc les contenus. Voilà, comment on passe de contenus en fait, créatifs, d'art, à des contenus médias, fait, de manière assez simple. Et puis j'ai cette formation, cette base d'administration et de gestion du patrimoine qui m'a servi aussi après toute ma vie.
Alors, une expérience personnelle dans une usine chinoise vous a poussé à écrire le livre que vous venez de publier aux éditions Maxima, DNVB, les surdoués du commerce digital. Racontez-nous.
Oui, c'était une visite en Chine dans le cadre justement de l'Institut français de la mode où je faisais un exécutif MBA pour sortir du cadre de la télévision et passer dans le cadre des maisons de luxe et de mode. Et je visite une usine de jeans en Chine. Et je m'aperçois que c'est l'enfer sur Terre, en fait. À la fois, c'est extrêmement polluant. À la fois, les humains sont traités de manière à la limite criminelle. Les normes environnementales ne sont pas du tout respectées. Et je prends conscience surtout que, en fait, tout ce travail humain conduit à un énorme gaspillage, puisque, en fait, le prix de ce qui est produit est tellement faible que bien souvent les grandes marques ne réclament même pas ce qu'elles font produire très longtemps à l'avance. Quand elles n'ont pas besoin de stock, elles laissent le surplus à l'usine. Et l'usine ayant fabriqué, n'étant pas propriétaire des stocks, les laisse pourrir derrière les usines. Donc il y a des gros tas, des décharges à ciel humain derrière les usines. C'est pas singulier à la Chine, hein, c'est singulier à tous ces pays, effectivement. Et la responsabilité n'incombe pas particulièrement aux usines, elle incombe aussi aux grands retailers.
Aux donneurs d'ordre,
bien sûr.
Que se cache-t-il derrière ces initiales DNVB ?
Allez, accrochez-vous, d'accord.
Alors, c'est un acronyme que je n'ai pas inventé, qui a été inventé par l'inventeur du business model, puisqu'on parle d'un business model, Digitally Native Vertical Brand. C'est un acronyme anglais. Moi, je dis DNVB pour simplifier. Alors, Digitally Native, en fait, ce sont des startups qui ont été des modèles qui est calqué sur la start-up technologique de la Silicon Valley, qui est née sur le digital, donc des pure players. C'est ce que signifie digitally native. Vertical brand signifie qu'elles ont des supply chains totalement verticalisées, comme Zara par exemple, et qu'elles raccourcissent, elles font des circuits courts en fait, du producteur jusqu'au consommateur final.
Vous pensez que les DNVB régiront bientôt le commerce en ligne ?
Non, elles ne vont pas régir le commerce en ligne, mais elles vont réécrire les règles, tout comme Amazon, du commerce en ligne et du commerce en général. D'ailleurs, l'esprit même de l'inventeur de l'acronyme, Andy Dunn, c'était bien de changer radicalement la manière dont on allait faire du commerce.
Vous évoquez la scalabilité. De quoi s'agit-il ?
Oui, en fait, on ne serait pas une start-up si on n'était pas scalable. C'est-à-dire que si, avec le même modèle, on ne pouvait pas en fait, gérer une croissance exponentielle. Et ça, c'est vraiment la base. Et pour être scalable, il faut avoir une supply chain. Ça fait un des piliers. Il faut avoir une supply chain qu'on appelle 4.0. c'est-à-dire bourré de data, bourré en fait, contrairement à une entreprise traditionnelle qui va gérer sa supply chain en cascade, là on va être sur un nuage, en fait, ce qu'on appelle un nuage, pour obtenir le bon de commande parfait, et que pour toutes les parties prises, toutes les parties prenantes de la supply chain, en fait, aient le même niveau d'information et soient traités en fait comme des collaborateurs de la marque et même pas comme des partenaires et non pas comme des fournisseurs.
Antoine ?
Alors justement, en parlant de scalabilité, il y a certaines entreprises du numérique qui sont confrontées à une vague de défiance de la part de leurs clients, des pouvoirs publics, parfois même de leurs propres salariés. Est-ce que pour vous, ça représente une limite dans la scalabilité du modèle DNVP ? Je m'explique, quand la start-up atteint une taille critique, est-ce que la proximité relationnelle et culturelle avec ses clients est encore possible ? Et est-ce que le discours sur les valeurs peut encore être perçu comme sincère ?
Bonne question.
Oui, c'est une excellente question. On n'est pas sur des modèles du tout de plateforme média. On est vraiment sur des modèles, effectivement, où le consommateur est au centre. Et là, il y a une très forte culture, vous avez raison de le souligner, de confiance avec le client. D'ailleurs, les DNVB reposent un des piliers. C'est ce qu'on appelle le concept de radical transparency, la transparence radicale. C'est elles qui ont nommé ce concept. Et c'est un des concepts, ça va être un des trends majeurs dans les années à venir, en fait, pour tous. Et je pense que, en fait, elles l'ont tellement bien intégré, tellement bien infusé, qu'elles sont pas en risque de ce côté-là, ni en risque du point de vue de la data. Je pense qu'elles savent se servir effectivement des informations qu'elles collectent, sans avoir à craindre justement les écueils dans lesquels les plateformes médias elles sont. D'ailleurs, les DNVB, le temps passant, ont tendance à vouloir se passer des plateformes médias sociales pour ces raisons-là justement, et à créer leur propre environnement dans lequel elles peuvent dialoguer en direct avec leurs clients.
D'accord. Justement, du coup, une question sur cette transparence dont vous parlez. Si je comprends bien, le modèle DNVB va apporter une transparence accrue sur la chaîne de production et de commercialisation des biens et des services. Selon vous, sur quels éléments de cette chaîne se porteront les exigences des consommateurs en priorité ?
Ah, il se porte sur toute la chaîne. Aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir tout ce qu'il y a dans ses produits, où c'est fait, comment c'est fabriqué.
Et ça l'intéresse vraiment, ça.
Oui, ça l'intéresse vraiment. Il y a eu une enquête récente de McKinsey qui a montré que 43% des consommateurs aujourd'hui cherchaient justement
à comprendre.
À savoir quel était le niveau d'engagement et de responsabilité de la marque. Si on regarde dans le secteur de la mode, par exemple, là aussi, on voit que dans les moteurs de recherche Google, en fait, c'est un topic qui est très très recherché, de plus en plus recherché. Et on voit aussi que les magazines de mode, par exemple, les mots-clés transparence et co-responsabilité sont en hausse de 83% des mots qui n'étaient pas du tout utilisés il y a 2 ou 3 ans encore.
Antoine ?
Alors, un autre mot très à la mode, vous en avez parlé, c'est la data.
Ouais. Donc,
beaucoup de startups, sinon toutes, élaborent leur stratégie marketing à partir des données qu'elles collectent sur leurs clients. Donc, en d'autres termes, pour être proche de mon client, il faut que j'en sache beaucoup sur lui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet hyper-ciblage finisse par gêner, voire inquiéter les consommateurs ?
Oui, ça, c'est toujours un risque. Je pense que c'est au consommateur de dire stop aussi. Alors là, on n'est pas tout à fait la recherche de data pour la data. On cherche à comprendre d'abord, et ça, c'est vraiment au cœur de la start-up, ce que veulent les consommateurs, ce dont ils ont vraiment besoin et ce dont ils ont vraiment envie. Ça, c'est déjà la base. Et on co-construit avec eux ces produits. Donc, c'est cette data-là qu'on va collecter, finalement. Et du coup, on va chercher plutôt leurs préférences, leur style de vie. Et on n'est pas très intrusif dans une DNVB. En réalité, on cherche vraiment, encore, comme on le fait avec les suppliers, on va le faire aussi avec les co-constructeurs de la marque, que sont les clients, en fait, et les envisager comme des amis de la marque, voire comme des collaborateurs de la marque.
Viviane, il paraît que le plus haut métier du monde, c'est médecin du monde.
Oui, j'aurais bien aimé être médecin du monde, peut-être dans une prochaine vie. Oui.
Pas de regret ?
Non, aucun regret, j'adore mon métier aussi.
Vous avez quand même pas mal voyagé, votre meilleur souvenir de voyage, c'était dans quel pays, quelle destination ?
Ah, le Myanmar, oui, le lac Inle, souvenir inoubliable.
Combien de temps vous êtes resté là-bas ?
J'y suis restée 3 semaines avec mon fils, mon petit dernier, c'était très bien.
C'était le paradis, ouais, quoi. Côté gastronomie, vous êtes quoi ? Vous êtes très slow food ou...
Ah, je suis tout et surtout, j'adore cuisiner. Donc, ouais.
Qu'est-ce que vous avez comme bon petit plat ?
Street food.
Street food.
Ouais.
Et alors, quand on viendra dîner chez vous, là, Antoine, Gilles et moi, qu'est-ce que vous nous préparez à dîner ?
Ah, ça sera en fonction du marché. Il y aura sûrement des artichauts.
Est-ce qu'il y a très bon artichauts ? Est-ce qu'il y a un prochain bouquin en construction, en création ?
Ouais, il y a toujours.
Sur quel sujet ?
L'hospitality probablement et, et les sources, hein, la manière dont on va revenir aux sources de la, de, des méthodes de vente. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'aujourd'hui faire du commerce?
Ouais.
Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça pourrait être à nouveau de faire du commerce avec plus de proximité? Parce que moi je suis convaincue d'une chose, c'est que plus il y a de digital et plus on doit renouer avec l'humain et avec la proximité.
La proximité, quoi. Et alors quand vous ne lisez pas, Viviane, vos propres bouquins, vous avez d'autres bouquins que vous aimez?
Bon, je ne lis pas mon bouquin en boucle, quand même. Non, c'est rare. C'est rare. J'ai lu le livre de l'économiste Jean Tirole,
ah oui.
L'économie du bien social, oui. Et un autre livre que j'ai adoré qui s'appelle Rise and Resist, qui a été écrit par la rédactrice en chef de Vogue Australie, qui montre de manière alternative de consommer la mode aujourd'hui.
Et enfin, pour terminer, vous soutenez les causes caritatives, humanitaires? Vous passez un petit peu de temps, un petit peu de sous là-dessus ou pas?
Alors, du temps, oui, j'investis beaucoup. Je suis coach à Station FHEC et je fais beaucoup, beaucoup de pro bono pour des jeunes start-up direct to consumer. Et je m'occupe aussi d'une association pour la petite enfance.
Merci beaucoup, Viviane. Je rappelle le titre de votre livre, DNVB, les surdoués du commerce digital chez Maxima au prix très raisonnable de 28,80. Ça, c'est quand même un prix marketing. Merci à vous également, Antoine et Gilles. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site cporadio.tv. Suivez notre actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
cporadio.tv vous a été présenté par Alain Marty.